Bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui part à la rencontre des créateurs les plus fascinants pour comprendre leur chemin hors des sentiers battus, leur processus créatif, mais aussi leurs doutes et leurs échecs. J'ai un plaisir immense à accueillir aujourd'hui quelqu'un que j'estime énormément, Yacine Bellous. Yacine, c'est 15 ans de stand-up, le Jamel Comedy Club, des centaines de représentations en France et dans le monde, l'histoire racontée par des chaussettes sur YouTube avec des dos, mais aussi beaucoup d'autres formats incroyables, comme son documentaire sur le stand-up qui vient de sortir sur Netflix. On a parlé pendant une heure de comment trouver son style, de l'imaginaire, de ce qui l'alimente en tant qu'humoriste, mais aussi de la discipline et de la performance. L'épisode est incroyable. Si vous êtes créateur et que vous avez envie de développer ce que vous faites, je publie tous les lundis une petite newsletter avec des conseils pour avancer. Je vous mets le lien dans la description et vous pouvez vous inscrire sur kilianthalin.com/inspiration. Bonne écoute. Salut Yacine.
Salut.
Comment tu vas?
Ça va bien, ça va bien.
J'ai envie de te proposer un petit jeu pour commencer.
Waouh, on commence par un jeu dès le début.
Ouais, c'est
parti.
D'entrée.
C'est parti.
Est-ce que tu aimes l'imagination? Est-ce que tu es prêt à imaginer des choses?
Oui.
Trop bien. Alors, je vais te proposer, à côté de mon ordinateur, j'ai deux masques.
Waouh.
Des masques d'avion.
Trop bien.
Je t'en passe un, il est tout propre, tout neuf.
D'accord.
On va le mettre tous les deux.
Ok.
Et on va faire un... Je parle près du micro. On va faire un truc qu'on fait pas toujours. C'est se concentrer sur la voix.
Ok. Hop. Ça commence chelou déjà. Donc c'est là, il faut expliquer aux gens, j'ai mis un masque.
On est tous les deux.
On me demande pas de fermer les yeux. On me met un masque, tu vois. Donc,
exactement.
Et j'ai rendez-vous dans une salle de location que je ne connais pas. Donc si je finis avec un rein en moins...
Peut-être que tu vas disparaître dans l'heure qui vient.
Absolument. Yacine. Me réveiller dans une baignoire pleine de glace. Est-ce que toi, t'as mis le masque? Toi, si tu mets le
bien
masque,
sûr, okay, tu peux vérifier. Super.
Si non,
tu
c'est veux. Bon. Moi, j'ai vérifié déjà.
J'ai aussi les yeux fermés en dessous.
Bah, pareil. Oui, c'est très dur. Ouvrir les yeux dans ce masque serait très irritant, je trouve. Je pense.
Exactement. Ce que je voulais te proposer, c'est que souvent, je trouve qu'on peut se concentrer beaucoup sur le regard, beaucoup sur l'apparence. Et fermer les yeux et même mettre un masque, ça peut permettre de se concentrer sur notre cerveau. Enfin, ce qu'on imagine, ce qu'on a dans notre tête. Et le petit exercice que je voulais te proposer, c'est de te replonger un peu, calmement, dans les débuts d'Yacine. Le moment où tu as commencé, et la question que je voudrais te poser, c'était quoi les premiers rêves du jeune Yacine qui commençait le théâtre, qui commençait le stand-up, qui a envie de grandir? Qu'est-ce que tu rêvais?
J'ai eu peur parce que tu m'as dit le début du jeune Yacine, je me suis dit merde, c'est sans thème particulier, donc ça voulait dire genre le début de ta vie, quand t'étais un fœtus.
Le biberon, c'était comment?
Le tout début, c'était au théâtre. Alors moi, j'avais fait du théâtre et j'avais pas vraiment de rêve, hein. J'avais pas vraiment de rêve. Je pense que c'est juste que cette activité-là me correspondait plus que toutes les autres activités extrascolaires qu'il y avait autour de moi, comme les activités sportives ou les sorties, ce genre de trucs-là. Alors que le théâtre, c'était chouette parce qu'il y avait un aspect de raconter des histoires et de prendre part à un élément collectif. C'est-à-dire que un élément, c'est peut-être pas le bon mot, mais on va dire à une aventure collective. En gros, t'avais plusieurs personnes qui étaient réunies et moi, j'ai jamais été très très à l'aise dans les contacts sociaux facilement. C'est-à-dire qu'il me fallait un peu de temps. Tu vois, j'ai toujours été un peu timide ou réservé, ouais, ou gêné. Donc là, dans le moment du théâtre, ce qu'il y avait de bien, c'était que on avait un but commun et que donc ça facilitait les échanges parce qu'on voulait faire une pièce de théâtre, donc il fallait qu'on apprenne le texte et puis il fallait qu'on se donne des rendez-vous et il y avait un propos, un but, et donc ce but-là, il était notre phare dans l'océan, ouais. C'est là où on voulait aller, et avec les profs de théâtre qu'on avait à l'école, et ben nous donnaient des consignes qui nous permettaient de nous dévoiler un petit peu plus, de nous présenter aux autres, tu vois, c'était un truc un peu social. Donc si tu veux, j'avais pas un rêve, mais j'avais le plaisir de, quand j'ai commencé, d'avoir des interactions sociales beaucoup plus simples.
Mmh, je comprends. Et ça c'est, t'as continué à le développer, t'as continué à travailler sur ces choses-là. Est-ce que t'as continué à toujours faire du théâtre? À quel moment tu t'es tourné vers le stand-up?
Alors moi, j'ai quand j'avais vu le spectacle de Jerry Seinfeld à la télévision, je me suis dit putain, c'est trop bien, c'est ça que j'aimerais bien faire, parce qu'il est lui-même. En gros, il y avait pas de moustache, pas de perruque, pas de d'artifice, et c'était chouette. Je trouvais ça cool de voir ça parce que c'est effrayant de faire ça, de d'aller parler à une foule, de connecter avec la foule et tout ça. Et je pense qu'il y a toujours un petit chemin dans mon esprit qui est peut-être inconscient, qui est de pouvoir connecter avec les gens, parce que j'ai toujours eu du mal à le faire, et que ça a été une sorte sorte d'ambition tout le temps de trouver des astuces pour pouvoir s'exprimer en face de gens ou essayer de faire passer des idées ou de communiquer mes idées à des gens. Après, le fait d'être apprécié dans ce que je faisais, c'est venu après. Par chance, j'arrivais à le faire correctement. Je savais pas que je pouvais le faire. Vraiment, je me rendais pas compte, mais j'avais des aptitudes qui faisaient, ou alors juste, je sais pas, un coup de bol. Enfin, honnêtement, je sais pas. Mais au tout début, les aptitudes se sont mises en place et je me dis merde, j'arrive à placer ma voix, j'arrive à me tenir debout correctement, ça me dérange pas de parler devant le public. J'avais moins peur à des endroits où d'autres avaient plus peur et j'avais plus peur à des endroits où d'autres avaient moins peur. Mais pour le théâtre, ça fonctionnait bien. Mon agencement de peur pour le théâtre, ça marchait.
C'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a un côté presque non naturel à vouloir se confronter pour toi à ce que tu ne savais pas faire ou que tu avais plus de mal à faire, c'est-à-dire de se connecter aux autres. Et pour le combattre, t'as décidé de te dire, ok, je fonce et puis en faisant à travers le théâtre, je vais arriver à me désinhiber un peu là-dessus.
Bah ouais, je pense qu'il y a toujours il y a des tas d'astuces pour essayer de comment dire, faire face aux choses sur lesquelles on voit qu'on a une incompétence, parce que on se dit bah tiens, moi je suis pas très doué pour ça, alors que je vois bien que d'autres autour sont doués. Même si quand j'étais jeune, je t'avoue que j'avais pas conscience que, enfin, j'étais très premier degré. En vrai, maintenant, quand je vois des mecs qui sont dans des soirées, qui parlent tout le temps à tout le monde et tout ça, je me dis merde, ce gars doit être terrifié au fond de lui, parce que en vrai, c'est plus ça qui se passe. C'est les gens qui en font des caisses de sociabilité sont en fait des gens bien souvent qui sont pas très à l'aise et c'est des surcompensations. J'avais pas l'info que c'était possible de compenser, de surcompenser pour donner l'illusion que, ou pour se prouver à soi-même que. Mais à cette époque, je me disais juste bon bah moi je suis pas un mec qui adore le foot, je suis pas un gars qui est hyper bon dans les jeux vidéo, j'étais juste un fan de manga, j'adorais les mangas, j'aimais bien en parler avec les gens autour de moi au collège et au lycée. J'aimais bien la musique, mais j'avais pas de passion. J'aimais bien raconter des blagues et tout ce qui était en rapport avec la comédie, c'était le truc qui me plaisait le plus parce que c'est ce que je regardais et c'était les conversations qui me passionnaient le plus. Maintenant, faire du théâtre, je me trouvais à l'aise dedans et ça me faisait plaisir d'en faire parce qu'il y avait un partage et c'est ce partage-là qui m'a accroché au truc. Je sais pas ce que trouvent les gens quand ils font du football, par exemple, quand ils font des matchs de foot. Je sais pas c'est quoi leur kiff. Pourquoi ils continuent à y aller? C'est relou. Des fois, il pleut. Il y a des entraînements où t'es fatigué, t'as pas envie. Je sais pas où ils trouvent le plaisir de mettre des crampons, d'aller dans des vestiaires avec d'autres gars, de prendre des douches des fois à Walp avec eux et tout ça. Moi, c'est pas mon délire. Ça me plaît pas. Je veux pas faire ça. Et pourtant, dans le théâtre, j'ai trouvé un grand plaisir de partager, d'être avec une troupe, d'avoir un but commun, de se dire ouais, on va y arriver et tout, c'est trop bien, ou s'entraider, tiens, je te fais répéter tes répliques. Il y a un plaisir de réussir à construire quelque chose ensemble.
Ouais, je comprends. Et je me dis d'ailleurs que c'est peut-être le cas aussi dans le football, hein. Les gens trouvent du partage dans le fait d'appartenir à une équipe, de s'entraîner ensemble, de construire pour.
Et pourtant,
pour
moi, j'adore.
Ouais. Je te propose un truc, je vais te poser une autre question. Ouais. Mais
au bout d'un moment, je vais te demander quand est-ce qu'on peut enlever le masque parce que ça
dire.
Sert.
C'est exactement ce que je vais te dire. Tu l'enlèves?
Ouais.
À partir du moment où on l'enlève, quand on veut. Maintenant, si on veut.
Moi, je l'enlève parce que ça serrait.
Très bien. J'espère de ne pas t'avoir mis mal à l'aise, mais je trouvais ça sympa de faire.
Non, c'est une expérience, moi, je suis d'accord.
Différente. J'avais une autre question sur ta jeunesse. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses dans ces, on va dire, dans les 20 premières années de ta vie qui t'ont beaucoup alimenté pour la suite des choses que tu as créées?
Bah, moi je pense que oui, c'est obligé. C'est une question qui est un peu vaste en fait, parce que t'es forcément alimenté par ta famille, l'endroit où tu grandis, les gens extérieurs, les amis et tout ça avec lesquels tu grandis, le climat social, ce que tu développes à l'intérieur de toi comme but. Ou comme, on va dire, comme blessure ou comme force, en fonction de ce qui t'arrive. Donc forcément, oui, mais je saurais pas te dire, c'est tellement vaste que la question, pour moi, elle est tellement chaude, je sais pas quoi dire. Mais honnêtement, je pense que y a un truc social dans ce que je fais, ouais, qui est en rapport avec... moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, d'accord, dans une famille qui est venue d'Algérie dans les années 50. Donc c'était un climat où j'étais comme plongé dans un monde où il y avait beaucoup de gens qui venaient de partout, d'Afrique du Nord, beaucoup d'immigrés, du Portugal, d'Italie, de plein d'endroits différents. Et j'ai grandi en cité et après j'ai été dans un pavillon. Donc en fait j'ai fait comme plusieurs classes sociales parce que c'est pas exactement les mêmes quartiers, c'est pas les mêmes commerces. tu vois. Donc j'ai vu, il y a un attrait social qui est fascinant pour moi dans le monde d'aujourd'hui et qui a pas beaucoup évolué d'ailleurs depuis mon adolescence. Moi je pensais que ça allait beaucoup changer et finalement pas trop. Donc il y a ça dans le texte et dans les choses que je défends. Peut-être que j'essaie de voir où est l'unité plutôt que de voir où sont les dissensions, où sont les désaccords entre les gens. J'essaie de pointer du doigt l'unité souvent dans ce que je fais et d'être on va dire philosophe dans comment se représenter le monde et comment se représenter l'humanité. C'est pour ça que je fais des blagues sur les animaux, parce que c'est un bon moyen de faire un parallèle avec nos comportements humains, tout ça. Plutôt que de parler, j'essaie de penser en macro plutôt qu'en micro sur tiens, tel événement, t'as vu le smartphone de Bidule, il a pas marché, ou l'autre, t'as vu la photo de l'autre, ou Kanye West, il a été au KFC et tout. Ça, c'est très drôle, tu vois. Y a plein
c'est
de
plus quotidien.
C'est très drôle, c'est quotidien. On peut trouver de l'universalité dans le quotidien, tout ça. Moi, j'essaie plus d'aller dans des trucs un peu comme des contes de fées, comme des trucs comme ça. Je trouve que c'est vachement sympa. Ça me parle vachement.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est quelque chose que j'ai beaucoup repéré quand je te vois en spectacle ou quand je regarde des morceaux de spectacle de toi. C'est que t'as une logique d'aller chercher aussi beaucoup dans l'imaginaire. Tu vois, des éléphants qui parlent, ouais. Une situation avec des super-héros. Je t'avais vu en première partie de Kian Kojandi.
Ouais.
À l'Européen.
Ouais.
Et tu vas vraiment chercher dans l'imaginaire. Est-ce que ça, pour l'alimenter, ça sort de ce que tu vois dans le quotidien et ça t'inspire ou c'est ton
ce qui est rigolo, c'est que pour l'alimenter, en fait, j'ai pas besoin de. En gros, dans les spectacles, je dis souvent ouais, mais écoutez, c'est comme fumer du shit et tout. Et en fait, je fume absolument rien. Ouais. Je prends pas de substances psychoactives, c'est genre pour aller écrire des blagues et tout. La seule drogue que je prends, c'est boire de l'alcool. Ouais. Donc c'est le maximum, tu vois. Et encore, j'essaye de faire des sessions où vraiment j'essaye de faire attention, genre à la santé et tout. Je fais du sport et machin. Mais en vrai, c'est très bizarre parce que les idées bizarres que je peux avoir, et ben, sont rien à voir avec des substances. C'est marrant. Hein.
C'est bien.
Et,
c'est bien
mais non, mais c'est parce que des fois les gens ils disent ouais, les gens qui écrivent et tout, je suis sûr vous prenez des trucs et tout ça. Et trop pas. En fait, la plupart des comiques que je connais, ils sont hyper sains et ils sortent des trucs complètement barrés, tu vois. Et donc j'aime bien l'imaginaire, mais je sais pas pourquoi. Peut-être à cause des dessins animés avec lesquels j'ai grandi, peut-être à cause des potes avec qui j'ai pu passer du temps parce que on faisait des délires sur ça. Je pense qu'en fait, c'est plus une forme de familiarité intellectuelle. Je pense que quand t'es avec des amis, au bout d'un moment, on a tous les mêmes délires, ça va hyper loin et le monde extérieur peut pas le comprendre forcément parce qu'ils ont pas suivi les épisodes 12, 13, 14 de la série et toi, t'es déjà à l'épisode 400. Quand je dis de la série, c'est la série avec tes potes, tu vois. Donc en gros, plus t'es familier avec des gens, plus tu vas loin dans les délires. Et moi, à force de cogiter sur ma propre façon de penser les choses, ben je vais loin dans les délires. Mais je pense que tout le monde va loin dans ses délires et qu'il y a pas, que moi. Enfin, c'est pas une caractéristique propre.
Ouais, c'est clair. T'as un truc par rapport à ça. Tu dis, je regardais quelques interviews de toi pour préparer celui-là. Il y a quelque chose que tu as dit une fois qui est, c'était pas forcément facile pour moi au début de trouver un style d'humour qui plaisait aux autres. Parce que justement, t'étais plus sur ces choses-là, liées à l'imaginaire, à des choses parfois un peu surréalistes. Est-ce que tu penses que, en tant qu'artiste ou créateur, on doit un peu se plier aussi aux règles que le public nous impose, ou au contraire, il faut les casser et créer son propre type d'humour ou son propre type d'art?
Franchement, je pense que on peut faire ce qu'on veut. On fait ça si on veut, mais de mon point de vue, mon opinion, c'est que il faut essayer de bâtir un pont avec les gens et que effectivement des fois ils sont pas réceptifs à ce qu'on propose et que ce n'est que des propositions, mais après c'est à toi de choisir le curseur dans ce que tu es prêt à concéder pour pouvoir bâtir ces ponts là parce que les gens, c'est pas de leur faute, mais il y a des fois où ils vont pas capter ce que tu dis, ou ils vont pas aimer même ce que tu dis. Et si toi tu dis, ben ça c'est la meilleure blague du monde, tu peux leur dire, bah niquez-vous, c'est la meilleure blague du monde, je me tire. Et voilà, vous avez pas compris. Mais des fois, c'est même très drôle. Des fois, il y a des artistes qui disent ça, c'est très drôle, vous avez rien compris. Mais en vrai, si on veut faire ce métier où on parle à des gens, faut quand même prendre en compte leur présence et la façon qu'ils ont de réagir à ce qu'on propose. Donc changer un peu la façon de présenter une idée pour que ça clique et que ça se branche avec les gens en face, c'est quand même, je trouve, c'est plus raisonnable que de se dire, ah ben non, mon idée, elle est géniale, vous, vous êtes nul, laissez tomber, je me tire. Donc, parce que si tu veux rester en face des gens et continuer à parler avec les gens, il faut que le dialogue s'installe. Tu vois, quand je te parle, tu fais des petits un-un avec la tête, ça veut dire que t'es d'accord avec moi. Si t'en faisais plus du tout, je pense que je m'inquiéterais. Donc, en fait, il faut créer ce truc-là. Je pense que c'est plus important de pouvoir continuer à parler avec les gens, de créer des ponts, que d'être un artiste maudit. Voilà. Moi, plein de fois où je me suis dit, putain, on comprend rien à ce que je dis et tout ça, mais effectivement, c'était soit mal expliqué, soit mal présenté. Je pense que quand je me plains, c'est parce que j'ai pas encore le talent et ou en tout cas la technique pour bien faire passer les trucs.
Je comprends. Et autant je trouve que dans certains autres types d'art, t'as un peu ce mythe de l'artiste incompris qui a de la valeur, peut-être dans la peinture parfois. Ouais. Autant dans le stand-up, si tu connectes pas avec les gens, tu ouais. pourras jamais t'en sortir, quoi.
C'est ça. Et même les gens qui ont l'air perchés, rebelles et tout ça, bah ils ont plein de trucs et astuces que tu comprends quand t'es stand-up et que t'as l'habitude de comprendre comment un numéro est structuré et tout ça. Et puis tu vois un petit peu comme dans, si tu veux, tu vois les fils, tu vois la cuisine de la personne parce que t'as l'habitude de jouer, et c'est quand même, c'est du beaucoup de travail, c'est beaucoup de mise en scène et tout ça. On dirait pas comme ça, mais c'est vachement de boulot. Au bout d'un moment, tu dis, ben oui, il y a personne qui arrive et qui est juste un mec bizarre et qui est marrant. C'est pas vrai. Il y a de la technique, il y a de la mise en scène, il y a de la réflexion, il y a du texte. Tout le monde bosse. Alors, tout le monde a son style. Et les styles sont très différents les uns des autres, et c'est ce qui fait la richesse de la scène de stand-up en ce moment. Mais t'es obligé, tu peux pas ne pas avoir de technique. Tu peux pas être juste un diamant brut et c'est marrant, c'est pas possible. Enfin, j'y crois pas en tout cas.
Ouais.
J'ai jamais vu.
C'est clair. Et toi, t'as l'impression que ton style a évolué et évolue encore, que tu progresses en quelque sorte, que t'es meilleur qu'il y a 5 ans?
Je pense que, je sais pas, j'espère. Ouais. Il y a des fois, j'ai l'impression de progresser, sur des mois, j'ai l'impression de régresser. C'est vraiment comme un sport, en fait. C'est vraiment comme un sport. C'est terrible de dire ça, mais c'est vrai que c'est ça. Et ça a pas forcément le même plaisir, ou comme de la musique, tu vois, t'as des groupes qui vont jouer pendant une tournée, ils vont être incroyables, puis après, à la fin de la tournée, ils vont être nuls. Toi, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment vivant. Et c'est ça que les gens, je pense, ne comprennent pas entièrement. C'est-à-dire qu'on assiste à une expérience. À chaque fois que tu vas voir un spectacle live, t'as pas acheté 74 blagues dites par Bidule. C'est vraiment, il est possible que ce soir-là, il ait un trou de mémoire, il est possible qu'il fasse une improvisation, il est possible qu'il y ait un problème, il est possible qu'il se blesse sur scène, il est possible que quelqu'un dans la foule fasse une connerie. Tous ces éléments-là, les gens ne l'appréhendent pas suffisamment, je trouve. Je trouve qu'on paye un peu comme une consommation, et cet élément live, il est hyper important, il est prédominant. Le fait que tu dois rester dans une bonne énergie physique. Il y a pas longtemps, j'ai vu une interview de Jules, le rappeur Jules, et j'ai kiffé ce qu'il a dit à un moment donné, parce qu'il a dit, normalement, je pars en tournée, et donc là, va falloir que je commence à retravailler comment il l'a formulé? Genre, la condition physique. Il dit, j'espère que la condition physique, ça va aller. Il parlait comme un footballeur. Il dit, voilà, donc là, c'est dans 2-3 mois. Donc là, je recommence à bosser la condition physique, machin. Et parce que clairement, jouer sur scène, c'est physique de ouf. Et il faut, c'est pas seulement le comprendre, c'est l'intégrer dans sa consommation du spectacle. On passe à un autre moment. On est ailleurs quand on se dit, là, c'est vraiment un moment unique. On sait pas ce qui va se passer, parce que c'est réellement le cas. Même si ça a l'air rodé, s'il y a les mêmes musiques au début et à la fin, c'est complètement unique.
Et ça, en fait, tu le sais pas parce que tu viens une fois. Mais si tu venais plusieurs fois, tu verrais cette variation et ce changement.
C'est clair. Moi, j'ai jamais vu deux fois le même spectacle. Ouais. Même pour des gens qui sont très, très, très techniques et très, très, très à cheval sur je dois faire la même chose. C'est jamais la même chose. Je vois des gars, c'est un peu des gros nerds, tu vois, qui disent, bon, là, je fais ça. Tu vois, ça bouge pas beaucoup. Mais c'est jamais pareil, en fait. C'est jamais pareil.
Je pense que t'as un passage, effectivement, où quand tu as compris, quand tu démarres dans le stand-up et que tu comprends cette importance de la connexion et qu'au lieu de regarder ce que tu vas dire, tu regardes ton public, il y a un truc différent qui se passe. C'est que t'es dans la connexion et donc tu acceptes l'imprévu. Mais de cet imprévu, il sort des trucs magnifiques, quoi.
Exactement. C'est tout à fait ça. Il y a, en fait, il y a, au moins 50 à 60% de toi qui est accaparé par où t'en es, ton texte, etc. Mais une énorme partie de l'énergie des gars sur scène, c'est comprendre la foule. Qu'est-ce qui se passe dans la foule? Est-ce qu'ils te suivent? Est-ce qu'ils sont avec toi, pas avec toi? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que ça leur plaît? Est-ce que tu peux accélérer? Est-ce que tu peux utiliser une astuce pour les réveiller ou pour les calmer s'il y en a qui parlent un peu au fond? Tu vois, tous ces trucs-là se passent en même temps que tu dis un texte.
Ça, c'est fou. Hein. On se rend pas compte en tant que public. Mais c'est ça. C'est impressionnant.
Mais c'est ça, c'est comme conduire un vélo, tu fais du vélo, mais imagine que tu as ton chemin, sauf que le chemin, le sol, il change. Des fois, ça va se transformer en pente d'un coup, alors que d'habitude, c'est toujours une montée. Et puis la montée, à un moment donné, elle va être plate, alors que tu sais que c'est la montée, puis t'avais économisé pour le truc, et puis c'est plat, en fait. Et c'est chiant. Mais juste après, t'as une pente, un truc qui change. Ça change tout le temps, alors que tu connais la route. Tu l'as fait tout le temps. C'est la même route, il y a les mêmes panneaux, c'est le même endroit, c'est le même décor, mais ça descend, ça monte, tu sais pas pourquoi. Ouais. Et les gens, ils sont imprévisibles. Il y a des fois, tu commences, c'est ton quart. Et puis après, à cause de toi, ou à cause de eux, ou à cause d'éléments que des fois tu maîtrises pas. C'est dur à maîtriser, c'est dur de savoir. Il y a beaucoup de gens qui ont plein de théories qui vont dire non, c'est l'artiste, c'est 100%, le stand-up, c'est lui qui est responsable de tout. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que le public et le mélange du public et qui sont les gens dans la salle. Des fois, t'as un groupe de 5 personnes qui sont vraiment des relous. Ben, ça te nique ton show. Si t'arrives pas à gérer ces 5 personnes, c'est fini. C'est bye bye. Y a plus de show.
Ouais, je comprends. T'as une logique presque, comme tu disais. On parlait un peu du sport et du football, mais même dans le stand-up et même dans la création, dans tout type de création, t'as une logique de performance.
Ah ben oui.
Et pour ça, t'as forcément de la préparation. Et tu parlais tout à l'heure un petit peu de ton alimentation ou des choses que tu fais attention. Il y a d'autres trucs, enfin, il y a des trucs qui sont importants pour toi pour être bien préparé, peut-être physiquement.
À une époque, ouais, je faisais beaucoup plus attention et franchement, ça change énormément. Là, par exemple, j'ai fait moins de sport récemment. Mm-hmm. Je le sens quand je joue. Alors que quand je faisais beaucoup de sport, je pouvais jouer mais beaucoup plus sans être absolument touché. C'est-à-dire que l'énergie était totalement la même du début à la fin. Mais après, là, comme je connais bien le spectacle, je sais où placer mon énergie aussi. Et je sais pas si c'est comme... je sais pas comment expliquer. C'est bizarre parce que comme je sais où gérer l'énergie, j'ai besoin de moins d'énergie. Vu que je connais bien le spectacle, j'ai pas besoin de toute la patate tout le temps. Je sais où la mettre. Et donc, du coup, j'ai besoin de moins de quantité de force. Alors qu'avant, quand tu connais moins le spectacle ou quand tu le reprends, t'es à bloc tout le temps, quoi. T'es à fond, à fond, à fond. Et en fait, avec le temps, t'apprends à mieux dépenser ton énergie.
Ouais, tu doses un peu ta performance.
Tu doses ta performance parce que tu connais le terrain. Tu connais pas le public, mais tu connais ton show.
Ouais, tu joues sur finalement ce que tu peux préparer en amont et après...
Ce que tu maîtrises.
Tu joues avec la réalité.
Exactement. Quoi.
Il y a des choses, j'ai l'impression aussi, qui t'inspirent pas mal sur... donc, t'as créé l'histoire racontée par des chaussettes.
Ouais.
Qui, si tu veux le pitcher rapidement, mais je le raconterai aussi en intro, mais qui est un super format sur YouTube où vous racontez l'histoire avec des marionnettes en forme de chaussettes.
Exactement ça.
Incroyable. Donc, tu t'alimentes des choses sur l'histoire, ouais. L'évolution de la société, parfois les inventions ou des choses un peu loufoques. Est-ce que... Tu dirais que, enfin, il y a une phrase que j'ai entendue de toi qui dit « La création des choses, c'est un des trucs qui m'a le plus passionné relatif à ça. »
La création des choses.
Ouais.
C'est-à-dire.
Ben, l'histoire.
Ben, moi-même, je me comprends pas. Oui, là, la création de. Oui,
ouais,
oui.
Tu
oui.
vois, l'évolution de la société, la création des choses.
Ouais.
Et ça, c'est super intéressant.
Ben, c'est vrai que c'est passionnant quand même parce que c'est partir d'un postulat où il n'y a pas le truc et genre un jour après, il y aura le truc. En gros, je sais pas comment expliquer, c'est trop débat. C'est trop débat. Si tu regardes l'annonce du premier iPhone, par exemple, c'est hilarant maintenant. Parce que vraiment, les gens, ils craquent dans la salle, ils font « Wouah !» Alors que t'as Steve Jobs qui dit « C'est un téléphone, une machine pour envoyer des mails et un iPod. » Un téléphone, une machine, tu sais, ils répètent « Envoyer des mails et un iPod. » Et dans la salle, ils font « Ah !» Ils deviennent complètement fous. Alors qu'aujourd'hui, c'est OK. C'est totalement OK. C'est, en gros, rapporter quelque chose de ton cerveau et le mettre dans la réalité, ça mindfuck, quoi. C'est un truc de ouf. Moi, ça m'est arrivé, un des premiers mindfuck comme ça, je l'ai vécu à 7 ou 8 ans. On a été dans un truc d'argile pendant une colonie et on avait tous un petit morceau d'argile et on devait tous faire une petite statue. Et moi, dans ma tête, j'ai pensé à une statue d'oiseau et avec mes doigts, j'ai réussi à faire la statue d'oiseau. Ça m'a mindfucké. C'est-à-dire que tu fais « Wow, ce que j'arrive à avoir dans ma tête en comment on appelle ça ?»
Dans l'imagination un peu.
Dans l'imagination, mais c'est un autre nom. C'est abstrait. Je sais pas comment le dire. Tu arrives à créer une image concrète, mais dans un monde qui est que dans ta tête. Il y a que toi qui la vois. Il y a que toi qui as cette perception.
Ouais.
Et tu peux la faire sortir à l'extérieur et il y a d'autres gens qui peuvent connecter à cette perception. C'est un truc, je pense, on n'a pas encore géré à 100% les humains.
Parce que c'est fou comme truc.
Tu vois ce que je veux dire?
C'est hyper épanouissant et c'est hyper... Et quand tu arrives, je pense, avec ta création, à faire en sorte qu'elle se connecte à d'autres et que les autres se disent « Ah ouais, aussi ».
C'est ça. C'est-à-dire que au-delà d'avoir le plaisir d'avoir créé ce truc-là, le truc qui est ouf, c'est que les autres voient ce que toi t'avais vu avant.
Ouais.
C'est pas tellement le fait de dire « T'as vu, l'oiseau, il est stylé ». C'est juste « Est-ce que tu le vois ?» Ouais. Est-ce que tu l'oiseau est là, tu vois, alors qu'avant il était que dans ma tête. C'est des barres. Ça c'est con parce que c'est fait avec un oiseau et machin. Mais il y a d'autres concepts qui sont des concepts psychologiques ou comment dirais-je philosophiques, pas psychologiques, philosophiques, qui t'aident à transformer un peu ta façon de réfléchir et qui sont applicables à toi, ton statu quo, à toi, ta façon de voir le monde, comment tu gères les choses, mais qui ont été créés par d'autres gars. C'est un délire. C'est le mec qui dit, regarde, moi j'ai pensé à ça. C'est quoi ton problème en ce moment? Bah, je sais pas, j'arrive pas à m'organiser. Bah, regarde, moi j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, mortel, je m'organise mieux maintenant. Bien, ouais. Je sais que c'est con ce que je dis, mais en même temps, c'est incroyable. C'est incroyable pour moi.
Et t'as un truc qui est propre à l'humain dans ce partage et le plaisir de partager et de voir que ça parle à d'autres, c'est impressionnant quoi. Est-ce que on parlait un peu de ton style et comment il évolue, ton style
de stand-up, de comment je joue sur scène, ouais.
Ça a été facile pour toi de le trouver?
C'était plus naturel,
ouais.
De trouver la façon ou les thèmes que je voulais aborder, parce que ça a toujours été des choses qui, on va dire, c'est toujours un peu dans les mêmes genres de trucs, tu vois. Après, moi, j'adore l'absurde et les personnages.
Ouais.
Et donc, je faisais plein de personnages, mais j'avais tendance à les faire mal, parce que je faisais 4-5 personnages sur scène. Alors, quand tu commences en stand-up, t'es maladroit. T'es un peu...
un bébé qui démarre.
Tu bof, tu vois, t'es pas trop... Puis je commençais à être de plus en plus à l'aise et je faisais des voix, des personnages, ça se passait vachement bien. Et j'ai découvert Eddie Izzard, qui est totalement ce genre de choses. Et c'est devenu une énorme influence parce que lui, dans sa technique et son rythme, j'ai dit putain, c'est comme écouter un musicien. Tu dis mais il est trop fort. Il est trop fort parce qu'il change vite de rythme, il utilise des mélodies qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, il utilise un son et une façon de parler qui est très propre à lui, qui lui permet d'amener tous ces personnages-là, que lui-même, il a été inspiré par les Monty Python, il a été inspiré par Richard Pryor. Et donc, pour moi, je me suis inspiré de son univers, de sa technique, pour essayer d'améliorer mes performances en tant que technicien. Mais si tu veux, les thèmes que j'aime sont aussi en rapport avec l'histoire et tout ça, mais ça a toujours été ça d'avant. Parce que j'ai toujours bien aimé les Monty Python, j'ai adoré les nuls, j'adorais les inconnus, et ces gars-là faisaient des sketchs un peu étranges où ils partaient des fois dans le passé, où je me souviens, les nuls, ils avaient fait un sketch avec César, il y avait une reprise en main de l'histoire, il y avait une reprise des genres aussi, prenez les genres, et il parlait de la pop culture beaucoup. Moi j'aime bien la pop culture dans mes spectacles, donc tout ça c'est un peu mélangé, un aspect social que j'aimais bien par rapport à Coluche, donc tous ces éléments là j'ai essayé, si tu veux, de faire un grand mélange d'inspiration, de c'est comme si c'était des conseils dans ma tête, c'est des gens qui disent tiens, nous on a fait ça, ça a marché. Ça s'est bien passé pour nous. Ouais. En tout cas, ça a marché, ça veut dire que ça m'a plu. Parce que moi, je vais faire des blagues qui me font kiffer. Les gens vont les trouver pas ouf. Je vais dire, je vais quand même la garder un peu parce que je l'aime bien. Mais c'est peut-être pas un bon choix, hein. Mais en tout cas, c'est mon choix. J'aime bien dire des blagues qui m'amusent bien sur scène. Voilà.
Ouais. Et t'as effectivement un processus de digestion de toutes ces inspirations.
Ouais.
Et ce que je trouve fort, c'est que t'as aucun problème à citer les gens desquels tu t'es inspiré.
Ah oui.
Et t'as certaines personnes qui font l'inverse, qui veulent peut-être paraître un esprit fort ou en tout cas novateur, qui vont dire ok, moi voilà, je suis comme ça, je l'ai inventé, etc.
Alors qu'en fait, c'est quand même, il est partout. C'est vachement dur. C'est hyper dur d'inventer en partant de rien.
C'est clair.
Moi, si j'avais pas vu Les Nuls, si j'avais pas vu Coluche, si j'avais pas vu Jerry Seinfeld, j'aurais jamais eu l'idée de faire de l'humour. Les Robins des Bois, j'aurais jamais eu l'idée de... Si tu veux, je pense que l'inspiration et le être emprunt et absorber des, comment dire, des manières, des attitudes, des idéologies, c'est aussi parce que t'es attiré par ça, donc c'est quelque part en toi, c'est quelque part quelque chose qui est en toi. Pense qu'il faut citer ses références, faut citer ses sources, et faut donner envie aux gens d'aller les voir. Moi, je cite Eddie Izzard en permanence. J'ai eu la chance de le rencontrer, d'avoir fait sa première partie. J'ai eu la chance de il m'a encouragé à jouer en anglais, donc j'ai été en Angleterre un peu mentoré par lui, poussé. Il m'a présenté son tour manager qui m'a aidé à jouer là-bas. Donc à Londres, pendant un moment, j'avais un agent, un manager qui étaient les mêmes que lui, parce que c'est la forme qui compte, c'est la forme d'art qui compte. Et c'est pour moi, c'est ça qui traverse le temps, c'est les idées. Mes idées personnelles ne sont pas les idées des Dizard. Je dis des blagues qui sont pas ces blagues. Donc mais c'est juste que c'est ce genre de, je pense, peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est une sorte de grande pièce où on se retrouve. Parce que c'est des comiques qui aiment un grand cercle, on va dire, où il y a plein de comiques qui aiment ce genre de comédie. Mais ce cercle-là, il est aussi touché par un autre cercle de gars qui vont aimer, par exemple, que le cynisme, l'humour très cynique. Et il y a un endroit où ça se rencontre. Et c'est plein comme ça de petits cercles qui se touchent et qui font qu'il y a un endroit où tel spectateur va adorer parce que c'est la juste dose, cet humoriste-là, pour lui, il va avoir Roman Frécinet, par exemple, il va dire oui, c'est la juste dose d'absurde, d'engagement personnel, d'idées un peu loufoques, de personnages. Il va dire oui, j'aime son point de vue, m'attire. Marina Rollman, qui fait plein de petits personnages très vite, très, 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 très bien. C'est un génie de ça. Ça apparaît, ça disparaît très vite. Une forme de douceur, une idéologie qui va être vachement humaniste, un peu féministe aussi parce qu'elle appuie des idées hyper fortes concernant cet aspect-là qui la touche beaucoup, tout en étant hyper absurde à des moments. Enfin, c'est des endroits, on va dire, où il y a une sorte de recette qui constitue qui tu es. Il y a plein d'éléments, tu sais, comme dans les joueurs de foot, tu vois, dans les jeux vidéo ou dans Mario Kart, genre il y a l'accélération, la maniabilité, tu vois. Voilà. Et ben il y a tout ça, tout plein de petits cercles qui font que, mais ces cercles-là sont aussi influencés par d'autres artistes. Je ne croirais pas un mec qui arrive sur scène, qui fait du stand-up et qui dit moi, je n'ai été influencé par personne. Je trouverais ça bizarre et j'aurais du mal à le croire.
C'est sûr. Complètement d'accord. T'as une sorte... derrière tout ça, derrière tous ces petits cercles qui forment la recette Yacine Bellous ou la recette Marina Rollman, t'as aussi tout un processus derrière de création. Comment tu montes, toi, un sketch? De quoi tu pars?
On m'a déjà posé des fois cette question, mais je te jure, mais c'est pas pour dire qu'elle est pas originale, c'est juste pour dire que je ne sais pas y répondre. Parce qu'en vrai, des fois, c'est une idée, des fois, c'est une impro, des fois, c'est un truc dans un train... des fois ça passe, après tu notes ton petit bout d'idée, moi je le mets dans un coin, mais tous les comiques ont leur façon. Il y a des gens qui écrivent 5 heures par jour, il y a des gens qui je sais pas, qui font des trans, des réflexions, des gens, c'est rien, j'imagine, hein, tu vois. Il y a des mecs qui se mettent dans des conditions, tu vois, en disant bon, il faut que je gratte maintenant et tout. Et honnêtement, moi en plus ça a évolué. Au tout début, quand je commençais, j'écrivais beaucoup. Maintenant, j'arrive plus à écrire, je sais plus pourquoi.
Tu prends plus de plaisir à le faire?
Non, je prends des notes et puis je vais sur scène avec un bout d'idée et je dis les trucs. C'est voilà. C'est un peu bizarre, mais je te jure, tout le monde est différent.
Mais
j'aimerais bien, hein, tu vois, conseiller, parce que tu sais, ça fait un peu, on n'a pas envie de partager comment on fait.
Non, du tout.
Mais c'est juste pas du tout.
Ta question à toi, et si t'as pas de, méthode, et que ça, surtout que ça varie dans le temps et que c'est assez spontané.
J'ai déjà entendu j'aime bien écouter les yeux d'humoristes faire des interviews et tout, et franchement, tout le monde est hyper différent à ce niveau-là. Mais j'aimerais bien, moi, c'est mon rêve, hein, maintenant. Un rêve vraiment, ce serait de me donner rendez-vous à moi-même. Je vais dans un endroit, boum. Allumage de Word, ça écrit pendant 2-3 heures et à la fin j'ai 20 minutes. C'est tellement pas moi, quoi. Ouais. C'est pas du tout moi.
C'est hyper personnel à chacun et moi je le demande de manière hyper neutre pour me dire, est-ce qu'il y a toi une manière de faire? Mais ouais, c'est clair que chacun a sa façon de faire et trouve surtout ce qui résonne pour lui et ce qui lui permet d'aboutir finalement l'objectif qui est d'arriver à sortir un début de blague ou un début de texte, quoi.
Ouais.
Très bien. Et t'es quelqu'un, est-ce que t'es quelqu'un de discipliné ou au contraire éparpillé?
Bah, les deux. Okay. En fait, je suis à la fois très discipliné et très éparpillé, et c'est vraiment en fonction des temps, des moments et tout. Je peux être très discipliné quand j'ai décidé de faire un truc et d'aller jusqu'au bout et de pas lâcher l'affaire et de, tu vois. C'est par exemple le documentaire sur le stand-up. Ouais. C'était quand même compliqué parce que t'avais 38 interviews. J'ai fait un montage avec un mec qui est génial, qui s'appelle Pag dans le monde du montage. Non, c'est pas Pag. C'est quoi son Olivier? Son prénom, c'est Olivier. En gros, on a travaillé avec une société de production qui s'appelle Empreinte Digitale. Et ils avaient un but, c'était de rendre je sais plus, on avait 4 mois, je crois, ou un truc comme ça. Et il a fallu tourner beaucoup, monter beaucoup. Et au bout d'un moment, tu deviens fou, en fait.
Usant. C'est usant un peu.
C'est usant psychologiquement, physiquement. Tu craques à être dans une salle de montage et tout ça. Et là, c'est là où, en fait, la discipline, elle marche un peu. C'est que tu dis, tous les jours, on va y aller, on va se mettre face au problème, on va régler le problème. Mais moi, t'as envie d'arrêter au bout d'un moment, t'as envie de t'enfuir. Moi, les salles de montage, c'est mes ennemis. Donc il faut que je trouve un système à chaque fois, comme quand j'ai fait le montage du Trône des Frogs. Il s'appelait Paz, pardon, c'est pas Pag, Paz. Et en fait, à chaque fois, il faut que je trouve un système pour m'empêcher de m'enfuir. En fait, j'ai envie de m'enfuir, de partir, changer d'identité, m'en aller du truc. C'est trop relou. C'est très relou.
C'est pas le côté agréable pour toi de la créativité.
C'est pas du tout le côté agréable. Pourtant, il y a plein de mecs qui disent mais la salle de montage, c'est génial, c'est une réécriture, j'aime tellement. J'ai envie de mourir en salle de montage, moi. J'ai envie de mourir. Je ne sais pas ce que je fais là. Je préfère faire un bon petit bide en stand-up en me disant tu sais quoi. Voilà, j'ai pas maîtrisé ma technique ou mes blagues, les gens ils ont pas gueulerie. Rentre chez toi. Mais la salle de montage, alors que je sais que c'est un passage obligé et qui améliore le projet. Je sais que c'est obligé, que ça améliore le projet, que c'est super de faire un bon montage. C'est très important. Et donc là, j'ai besoin de discipline. Et donc, j'ai besoin de me contraindre et de me forcer. Et se contraindre, c'est enlever en fait, c'est simple, hein. La discipline, c'est enlever les éléments qui te perturbe et qui te déconcentre. C'est tout con. En fait, la discipline, c'est pas rester sur ce que tu fais. C'est enlever les éléments qui te dédisciplinent, qui t'enlèvent du chemin que tu as. Tu dois finir quelque chose. Tu coupes Internet. Tu vas pas manger. Tu mets pas de musique. Tu mets ton téléphone dans une autre pièce. Tu branches l'ordi. Tu grattes. Tu grattes, tu grattes, tu grattes. Et c'est nul, c'est fait exprès, c'est normal. Améliore le truc nul plus tard. C'est vraiment tout ce qui t'enlève de... Je pense que j'ai une technique de discipline qui fonctionne bien. Ouais. C'est quand j'ai arrêté de fumer, il a fallu que je reprenne le sport. Parce que c'était un conseil que tout le monde donnait. Ouais, faut reprendre le sport, c'est très important, même si tu continues pas. J'avais très peur de reprendre le sport parce que j'avais pas envie de courir, j'avais peur de me sentir jugé, parce que ça faisait 1000 ans que j'avais rien fait, quoi. J'étais jamais de sport, jamais. Donc, déjà, juste mettre un survêt, c'est un truc de ouf dans ma tête. Mais je vais pas aller sortir faire de la course. C'est la honte, quoi. Je vais devenir rouge au bout de 2 minutes, tout ça. Et mon objectif, c'était d'essayer de courir comme les gens qui courent, tu vois. Ils courent une demi-heure, 45 minutes, une heure. Je vais mourir si je cours une heure. Donc, en fait, j'ai eu la présence d'esprit de me dire, OK. Et c'est ça la discipline, que je trouve qui est cool, une technique de discipline, de dire ok, soit t'abandonnes, donc là bon t'as raté ton truc, donc tu jettes l'éponge, soit tu veux pas lâcher l'affaire et tu veux quand même le faire, mais combien tu serais capable de courir? Donc j'ai fait un dialogue tout seul, tu peux courir 30 minutes? Non, je pense pas, ça va me stresser. Est-ce que tu peux courir 20 minutes? J'ai un peu peur, on sait jamais. Juste, ça va me mettre mal à l'aise d'être 20 minutes en train de faire semblant de jogger, alors que je l'ai pas fait depuis que j'ai 16 ans, tu vois. Là, j'en avais 32 ou 33. Et en fait, j'ai tout réduit jusqu'à 5 minutes. Et ça me faisait trop rigoler de me dire, vas-y, on sort, on court 5 minutes, on rentre. Et en fait, j'ai fait ça. Je suis sorti, j'ai couru 5 minutes dans le parc à côté de chez moi. Je suis rentré et j'ai fait ça tous les jours pendant un mois. Et le mois d'après, j'ai fait 10 minutes. Et le mois d'après, j'ai fait 15 minutes. Et ça m'a acclimaté à gérer mon stress et ma peur, juste de sortir et de faire du sport et d'accepter que je fais du sport. Et au fur et à mesure, comme ça, par mois, j'augmentais et à la finale, je faisais une heure par jour le dernier mois où je courais une heure par jour et j'étais pas essoufflé. Je trouve que c'est une bonne technique de réduire les blocs de travail. Là, c'est avec la course. Ça marche avec un mémoire. Ouais. Ça marche avec n'importe quoi. Ça marche avec même socialement aller discuter avec des gens. T'es à une soirée. T'as trop peur de parler à tout le monde. Est-ce que tu peux juste aller voir une personne et juste demander, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie ou, ouais, ou quelle heure il est, tu vois? Et tu dis, voilà, je voulais juste savoir ça, merci, bonne soirée, et tu t'en vas. Et tu vois ce que ça t'a fait, comment t'as géré l'action, etc. C'est un petit moyen de s'acclimater plutôt que de se jeter dans un truc qui est trop dur. Tu sais, c'est comme essayer d'écrire un scénario, et tu peux pas. C'est pas possible. Tu vas pas te mettre devant ton ordinateur, tout écrire d'un coup, c'est pas possible, t'es pas un génie. Essaye d'écrire une idée qui serait dans le scénario. Maintenant, essaye d'écrire deux idées qui seraient dans le scénario. Essaye d'écrire comment tu rêverais écrire ton scénario. Tu vois? Et ça, ça te sort de cette contrainte terrifiante qui est arriver au bout du truc.
Ouais, je suis tellement d'accord avec ça parce que quand tu crées, tu peux vite te mettre dans une logique. Enfin, et c'est pareil pour la course, hein, mais si je rapproche ça à la créativité, tu peux vite te mettre dans une logique où tes peurs peuvent te bouffer. Dans le sens où, si tu te dis, je dois écrire un spectacle pour dans tant de temps, par où je commence, quoi? Surtout quand t'as jamais fait de spectacle. Alors que si tu te dis, je reprends un peu ta technique, la façon dont je fais ça, si j'ai un truc que je veux faire dans 6 mois, tu as une idée que, je sais pas, 3 mois, dans 3 mois, je veux faire un podcast, quand j'ai lancé le podcast, je vais le prendre et je vais le décomposer, tu vois. Dans 6 mois, je voudrais que ça ressemble à ça, dans 3 mois, dans 2 semaines, ça va ressembler à ça. Dans une semaine, et demain, qu'est-ce que je peux faire juste pour que ça avance, quoi? La première, c'est tu peux mettre pour un jour, demain je note qui est-ce que j'ai envie d'inviter.
Rétroplaner.
Ouais, exactement. C'est la logique de rétroplanning, en fait.
Oui, mais c'est pas que juste, c'est que le rétroplanning, ça a changé ma life, parce que moi, il y a quelques années, je faisais jamais ça. Et là, c'est juste de dire, déjà, t'as un objectif. Et l'objectif, il est même pas obligatoire. C'est une vue. J'aimerais bien courir. Parce qu'il paraît que c'est vachement bon pour ma santé en ce moment, après avoir arrêté de fumer. Faire marcher mes poumons, c'était bien, il paraît, tu vois. Donc je fais, j'aimerais bien voir ce que ça fait. Je peux te dire que ça toussait, hein. Ça toussait pas mal. Ah ouais.
Ouais,
mais c'est un chemin. C'est pas obligatoire. Et ça qui est chouette, c'est de dire que tu te dis, je pense que j'irai là-bas. Et si je vais là-bas, dans 4 mois. C'est-à-dire que dans 2 mois, il faut que j'ai fait au moins la moitié. Ou alors je vais avoir une accélération exponentielle. C'est réfléchir. Et en fait, la créativité, elle est moins dans les idées que tu as sur le scénario ou sur ce que tu veux, que dans comment tu vas organiser ton chemin pour atteindre cet objectif. Ce chemin-là, il est créatif. Cela, il faut être créatif parce que c'est en rapport avec soi. Et c'est ça la véritable créativité, je pense. C'est comment ajuster ton environnement ou toi à ton environnement.
1000 fois vrai. Je suis tellement d'accord.
Aïe. Pop.
Non, mais c'est clair. Franchement, t'as bien calculé parce que quand t'arrives à faire ça, c'est le moment où tu te mets en branle, tu te mets en chemin,
ouais.
Et tu commences à faire un truc. Et moi, je le vois en ce moment. Le podcast, on est là, on n'a pas révolutionné le monde, mais par contre, on est content. Je suis content. Il y a un pas, puis un pas. Bon, j'ai lancé une petite chaîne YouTube. Bon,
c'est vachement bien.
Non, mais je suis pas satisfait du résultat, tu vois. Mais par contre, il a le mérite d'exister. Et je sais que vidéo après vidéo, je fais une pause, je réfléchis à un autre format qui va être plus intéressant et parce qu'il va être plus créatif. Mais il aurait pas existé si j'avais pas fait ça.
Je suis d'accord.
Idem pour le podcast, je réfléchis à ce que j'ai envie de faire dans 6 mois et j'ai envie que ce soit complètement différent de ce qu'on fait là.
Mais il y a un scénariste, je sais plus c'était qui disait, mais en fait, ce qu'il faut faire pour écrire quelque chose, quand écrire, ça marche avec tout, hein. Faire un podcast, faire de la décoration, repeindre une chambre. Quand je dis écrire, c'est, on change juste le verbe et c'est ce que tu veux faire. Mais c'est qu'il faut rater pour comprendre ce que t'as raté, pour réussir à le faire à la deuxième fois que tu le tentes. Si tu dois réussir immédiatement, c'est impossible. Donc forcément, c'est un chemin qui est ultra frustrant. Ça, j'en ai pas parlé, mais c'est très important. Je dis pas que c'est facile, que ça y est, tu fais un rétroplanning et la vie est belle. C'est pas ça, mais je dis que rétroplanning et le fait de se décomposer en petites actions, tout ça, ça permet d'aller un peu plus loin chaque jour. Donc il y a des mini-satisfactions. Genre, si t'as fait une liste de 70 trucs, il vaut mieux faire une liste de 70 trucs que de 5. Parce que les 5, tu vas pas être satisfait. Alors que juste, si dans la liste, il y a créer la chaîne YouTube, trouver le nom de la chaîne YouTube, enregistrer une première vidéo test, effacer la vidéo test. Si tout ça, c'est des étapes, t'auras l'impression d'avoir fait des choses. Et en une heure, tu peux faire 1 milliard de trucs parce que tu sais où pousser ton énergie. plus que dans des journées entières où j'ai galéré parce que je devais écrire le troisième acte de la fin d'un épisode. J'étais là, mais je ne sais pas. Et c'était horrible. Et c'est frustrant, mais c'est une bonne frustration qui est de se dire, j'ai encore 10 petits trucs à faire demain, je vais les faire. J'ai l'impression.
Ouais, bien sûr. C'est une manière de gérer la frustration. Et je te laisse boire en même temps et je pose ma question tranquillement. Prends le temps.
C'est
toi qui parles le plus, ce qui est normal. Ma question, c'est, est-ce que tu as eu des moments, du coup, ça rebondit un peu sur ce que tu viens de dire, mais est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été compliqué de faire face à ces doutes que tu pouvais avoir ou les frustrations de voir que tu performais pas comme tu voulais et que...
Mais c'est
Il y avait des galères, quoi.
Bah, en permanence. Bah,
encore aujourd'hui?
Bah, évidemment, ouais. Tout le temps, tous les jours. C'est tout le temps, ça, en fait. Ça fait partie du processus d'être en galère. C'est un processus où tout le monde est en galère tout le temps. En fait, ce processus d'écrire des blagues ou tout ça, c'est juste, t'es en galère et tout le temps, tu sors de la galère. Donc, c'est vraiment que ça. Ouais. C'est que ça. Ça n'existe pas. J'ai jamais vécu de moment où tu t'assois, t'écris, c'est parfait.
C'est bon, ça
n'existe pas. Moi, je connais personne qui fait ça. Enfin, on les connaît peut-être pas parce qu'ils sont milliardaires et que c'est tellement incroyable ce qu'ils font qu'on n'a pas accès à les rencontrer. Ces super-héros de l'écriture et de la blague. Mais ça n'existe pas. Moi, je connais personne qui me dit, bah ouais, j'ai écrit ça hier, mais c'était super, je l'ai vendu. Ça y est, on va le tourner. Et alors? Oh, bah, c'était facile, c'était cool. Ouais. J'ai même fait ça sous l'eau pour augmenter la difficulté parce que je me suis dit, tiens, mon iPhone va sous l'eau. Donc, c'est n'importe quoi.
Ouais.
T'es tout le temps en galère, t'es tout le temps pas content, mais c'est des étapes qu'il faut apprendre à gérer. Par exemple, là, j'essaye de finir des trucs. Là, c'est mon mojo en ce moment, mon délire,
ouais.
C'est de me dire, c'est pas mojo, je sais pas comment on dit, mais c'est mon but. Ouais. C'est que quand je commence un truc, j'essaye de le finir. Alors qu'il y avait des périodes où vraiment je laissais en chantier des tas et des tas et des tas de projets.
Ouais. Qu'est-ce que t'essaies de finir en ce moment?
Non, j'ai commencé plein de projets.
Ouais.
Je suis pas obligé, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a trop.
D'accord.
Mais il y a plein de projets que je voulais absolument finir, qu'ils soient bien ou pas, et j'ai réussi. Que ce soit l'écriture ou que ce soit des propositions de ces projets-là aux gens. C'est-à-dire qu'essayer d'aller jusqu'au bout du truc. Et quand c'est vraiment mort, c'est mort, tu lâches l'affaire. Mais c'est fait que ça marche plus, du coup. Bizarrement, j'ai bien plus de projets parce que j'essaye de proposer des projets totalement pas parfaits, qui me correspondent pas à 100% à ce que j'avais imaginé, que des projets nickel.
Ouais. Et t'as dit un truc super intéressant sur qu'on a développé un peu sur être capable de jouer et d'accepter l'inconfort et ces moments de doute et de galère.
Ah bah oui.
Et donc t'as vraiment un besoin et quelque chose de super important à développer quand tu crées, de développer ça. Et je trouve qu'il y a finalement comprendre que c'est inévitable et qu'il y a des échecs qui vont se passer et des moments où tu vas te prendre des claques, bah, si tu sais que ça fait partie du chemin, finalement il te reste à savoir est-ce que t'es prêt à jouer avec, et si c'est le cas, bah, go quoi, lance-toi sur
le chemin. Ouais, c'est ça. En fait, c'est bien d'avoir un objectif qui a un sens déjà. C'est bien d'avoir un truc avec du sens. C'est-à-dire que l'objectif final, s'il a du sens pour toi, c'est cool. Parce que si c'est vrai, enfin, c'est pas pour faire le prophète à deux balles ou le genre comment on appelle ça, le sage. Mais je me suis rendu compte dans ma vie que quand il y a pas trop de sens dans ce que je veux faire, je suis vachement plus déçu quand il y a un échec que quand il y a par exemple les chaussettes. Le sens que je trouve dedans, c'est que je m'amuse beaucoup et que ça crée du lien avec des gens et ça crée du lien avec des dos parce qu'on se voit, on rigole, on s'amuse et c'est vraiment un plaisir. Donc il y a une grande joie à faire ce projet-là alors que l'histoire racontée par des chaussettes n'est pas un projet qui me permet de vivre du tout. C'est plus comme un hobby sur le côté, c'est plus comme un kiff. Ça me permet, si tu veux, de toucher une communauté qu'on adore parce qu'ils aiment bien les chaussettes et leur faire plaisir parce qu'on fait des nouveaux épisodes. Ça c'est un sens pour moi. Donc le fait que ce soit difficile ou pas financièrement intéressant, bah c'est moins grave, c'est pas des échecs, mais on va dire que c'est pas des cases que tu coches en disant super, c'est mon travail. Mais n'empêche, t'as envie de le faire. Enfin, moi j'ai envie de le faire parce que ça m'éclate, il y a une vraie joie et ça a du sens, en fait. Alors qu'il y a des boulots qui sont financiers qui ont moins de sens, et donc finalement quand j'ai des problèmes dans ces boulots là je suis plus touché que quand j'ai des problèmes avec les chaussettes. Quand on propose à un producteur les chaussettes et qu'il va nous dire « Ah bah non, c'est bizarre, on comprend pas tout, on n'est pas sûr de vouloir produire ça parce que c'est un peu... c'est loufoque. » À la limite, ça nous fait plaisir. On dit, bah oui, c'est un peu loufoque, mais on l'assume totalement parce que ce projet-là, il a du sens. Il a un sens que nous, on comprend, mais qui nous enrichit.
Complètement. Ça te permet de dédramatiser complètement l'échec quand il arrive.
En tout cas, de l'accepter plus facilement, tu vois, parce que c'est dur. L'échec, c'est tellement dur. Se sentir être jugé, l'échec, raté, se sentir rejeté, c'est quelque chose de très violent et que je prends en compte quand je dis que faut faire des rétro-planning ou je sais pas quoi. Il y a pas de secret, mais dans la création, il y a tous ces moments relous qui sont comme quand tu fais une recette, faut éplucher les légumes. Ça se trouve, les gens ils vont pas aimer le truc. Faut demander aux gens, vous avez des intolérances ou je sais pas quoi. Mais il y a plein d'étapes qui peuvent être un peu relou que juste seulement l'assemblage délicat de tes ingrédients, tu vois. Donc c'est à prendre en compte, à noter et à comment dire, appréhender. Ouais. Une fois que tu l'appréhendes, c'est ok, tu vois, tu te dis, bon, vas-y, ça va être relou là pendant quelques mois, ou là je suis dans une mauvaise phase, c'est dans la mauvaise phase du projet, c'est la phase qui est casse-couille, mais je suis sûr qu'après ça va être super, ça va être rigolo, on va s'amuser, tu vois.
Complètement. On a senti qu'il y a eu des moments quand même où tu t'es pris des bonnes claques, des bons échecs, ou des trucs qui ont été durs.
Ouais, en fait.
Des trucs où tu te rappelles, où tu t'es dit, putain. Peut-être plus encore quand tu démarrais. Hein.
Mais on s'en prend tout le temps. Il n'y a pas de moment où ça s'arrête, les échecs, en fait. C'est des échecs tout le temps. Et heureusement, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens. C'est comme les malheurs et les bonheurs. Il n'y a pas de bonheur s'il n'y a pas de malheur. Donc, des échecs, des claques, des machins, tu t'en prends tout le temps. Après, c'est plus qu'est-ce que j'arrive à risquer. C'est sûr, essayer de pousser dans les risques. C'est ça, tu vois, comme je te disais, quand je dis, ouais, tu vas dans une soirée, t'essaies de parler avec quelqu'un parce que bon, t'es pas très sociable. Juste pour dire, ah, salut, ça va, je m'appelle un tel, toi, comment tu t'appelles? Juste pour voir si tu peux te faire des potes, quoi, dans une soirée. Si t'es timide, introverti et tout. Je prends cet exemple-là parce que moi, j'étais beaucoup avant. Et donc, je peux comprendre quelqu'un qui pense comme ça. Mais quand tu écris des projets ou quand tu proposes des projets, ben, c'est tout le temps que t'es refusé. C'est tout le temps des échecs. C'est tout le temps des joies et c'est tout le temps des tristesses, tout le temps. Ça ne s'arrêtera pas. Donc, même si j'appréhende les trucs, des trucs qui me touchent moins, comme des bides, par exemple, je vais faire des petits bides en stand-up. Les premiers bides que tu fais sont horribles. C'est la fin du monde. Puis après, t'apprends à gérer ça. Puis au bout d'un moment, tu dis, bon, bah voilà, ça arrive, des fois, tu fais, ça marche pas. Il y a d'autres bides dans des moments où c'est très important de pas bider, parce que c'est des grosses soirées où il y a beaucoup de gens qui regardent, des gens importants. Si tu bides à ces moments-là, bah, tu retrouves la sensation du début que tu pensais avoir dompté. Tu l'as pas dompté, c'est juste que il y avait moins d'enjeux et tout ça. Alors que là, c'est relâ. Ce que je veux dire, c'est que se croire à l'abri de la douleur, c'est une erreur monumentale. Parce que de toute façon, elle sera présente dans ta vie. Quoi qu'il arrive, elle va surgir à des endroits où tu l'attends pas. C'est le principe du truc. C'est le principe. Tu ne peux pas enlever ça. C'est-à-dire, tu veux contrôler la life, c'est trop chaud, mec. T'es un ouf. C'est-à-dire que, gars, c'est trop dur. Tu peux pas contrôler la vie.
Ouais, c'est la logique que tu disais tout à l'heure d'acclimatation. Tu te rends compte que, bon, si t'es prêt à jouer avec, sur des petites situations sans enjeu, ça va aller. Et puis même, petit à petit, t'auras d'autres échecs qui sont plus gros. Bon, bah, si tu commences à continuer à jouer avec. C'est en faisant ces échecs-là aussi que tu vas pouvoir ensuite avoir d'autres.
Ce que je veux dire, qui est un peu bête, tu vois, on prend l'exemple de la course. Ouais. Si tu fais, moi je faisais de la course, je courais beaucoup et je me disais, ouais, je suis en forme. Et j'ai fait du yoga. Le yoga, c'est un sport qui sollicite d'autres muscles. En fait, c'est un sport qui est un peu bizarre. Il sollicite des muscles plus, comment pourrais-je, à l'intérieur, genre, tu sais, t'as plein de couches de muscles dans ton corps. Mais en fait, moi je travaillais que certains muscles en courant. Tu travailles que certains muscles qui sont ceux qui t'aident à faire du jogging. Le yoga, c'est d'autres trucs. Mec, j'étais en galère. en chien. Je transpirais, j'en pouvais plus. Je ne pouvais pas tenir les positions. Alors que je me moquais du yoga. Je disais, mais oh, ça va, c'est rien. C'est juste pour te dire que quand tu t'acclimates à un truc, tu t'acclimates à ce que tu veux. Une fois que tu t'acclimates qu'à ce truc-là, si tu changes, que tu vas dans un autre mouvement, mais tu vas être en galère. Et tu vas prendre des échecs et ça va être dur. Et tu vas devoir te reconsidérer. Et je pense que c'est pas facile à faire, je dis pas que c'est facile à faire, mais c'est cool d'imaginer que ça va être là, que les échecs ils vont être là et ils font partie du deal et ils font partie du truc. C'est juste qu'il faut pas arrêter, quoi. C'est juste qu'il faut pas arrêter. C'est ça, la discipline, c'est de se dire, bah on n'arrête pas. Et la super discipline, enfin, moi, ce que j'arrive pas à faire, le super truc que je ne sais pas faire, c'est vraiment analyser ces échecs complètement. C'est-à-dire les revivre de A à Z, de dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est super. Ça, c'est des champions qui font ça. Les plus grands champions, c'est parce qu'ils arrivent à analyser leurs échecs et à travailler dessus.
Ah, mais intéressant, parce que tu peux aussi t'appuyer sur d'autres pour revivre un peu ça et prendre un peu de recul là-dessus. C'est-à-dire que toi, ça peut être dur pour toi de le faire toi-même, mais peut-être qu'en discutant avec d'autres qui sont dans la même situation, ou au contraire, quelqu'un qui est plus un mentor, tu vois, peut-être que certains échecs, peut-être que Eddie Izzard a pu t'aider à les
outrepasser. Je pense que c'est un bon exemple.
Comprendre.
Je pense que c'est un exemple. C'est des bons exemples. C'est des bons exemples qui montrent des bonnes façons de se comporter. Mais je pense que, malheureusement, je suis désolé, la seule façon de s'améliorer, c'est d'être face à soi. Il y a que soi et soi. On est un petit peu seul par rapport à ça. On a les autres qui sont des exemples, qui sont une sorte d'entourage, des chemins, des conseils. Mais les conseilleurs sont pas les payeurs. C'est toi, ta life. Donc, c'est à toi de te connaître et de te gérer. Et c'est dur à, enfin, moi, j'en arrive à cette conclusion-là, mais franchement, surtout en matière de création, en matière de travail à la table, en matière de discipline, bah, il y a que toi qui te connais suffisamment.
C'est clair. C'est toi et ta glace.
Ah, bah, pff. Ouais, on peut te donner 1000 conseils qui sont des très bons conseils. Moi, en fait, si j'avais noté tous les très bons conseils, j'aurais un livre qui s'appelle les meilleurs conseils délicieux au chocolat, tu vois. C'est les meilleurs conseils. C'est ouf. C'est comme quand les trucs inspiration d'Instagram, là, tu les lis, ouais. Tu dis, putain, mais c'est vrai. Tout le monde, mais c'est tellement vrai, tu vois. Et tu lis ça, puis en fin de compte, en quoi ça t'aide? En quoi ça t'aide dans ta vie à toi? C'est-à-dire que tout ce que je pourrais conseiller, moi, c'est du bullshit. Si une personne entend podcast et qu'elle se dit, bon, il y a 2-3 conseils cool ou il y a 2-3 choses qui sont inspirantes, mais il faut la réappliquer à soi. Il faut tout de suite le changer dans la devise de son pays à soi. Sinon, tu peux pas faire d'échange. Je sais pas comment expliquer, tu peux pas capter, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est adapter ce que tu vois et ce que t'entends aussi à toi et le retravailler et le redigérer à ta façon.
Ouais, sinon, ça n'a aucun sens. Puis il y a surtout des choses que tu ne peux pas faire. Par exemple, il y a parce que tu es toi. Mais il y a des choses que tu peux faire parce que tu es toi. C'est-à-dire que moi, par exemple, le foot, je m'en bats les couilles, mais à un point, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, même les gens qui s'en foutent sont un peu sensibles à ce qui se passe. Je m'en fous, mais de ouf. Et je n'ai aucun indice de pourquoi, à quel point je m'en fous. C'est quoi la raison? Je sais pas. Je te jure, je me suis posé, mais pourquoi? Mais c'est pas là. Je sais qu'on sent, c'est pas important de savoir finalement, mais c'est quand même intriguant. On vit dans un monde où c'est omniprésent. Et vraiment, c'est alors là, mais tout autour de moi, les gens, ils adorent tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde. Et ça me fait rire un peu. C'est-à-dire, il doit y avoir. C'est juste pour dire que t'as une singularité un peu rigolote. Moi, j'ai pris le foot, donc ça mange pas de pain. Mais je sais pas, il y a quelqu'un qui aime bien les avocats, d'autres qui aiment pas les avocats. Je sais pas comment te dire. Pour se poser ce genre de petites questions, ça me fait rigoler parce que tu te mets dans ton petit monde à toi, dans ton petit univers. Tu dis pourquoi ça me touche pas? C'est ouf.
Ouais, c'est marrant. Et c'est souvent, c'est dur justement à expliquer. Je vais pas pouvoir l'expliquer mieux que toi.
C'est les goûts, les couleurs, tu
vois.
Ouais,
c'est ça.
Et pourquoi les goûts, les couleurs?
Tu te construis en, je pense que tu te construis à la fois en, c'est une personnalité finalement, et tu te construis à la fois en mimétisme, mais aussi en opposition aux autres. Donc, il y a parfois, t'as peut-être décidé au fond de toi.
Ouais, peut-être.
J'aime pas les avocats. Et franchement, ça fait partie de moi et je vais le dire.
J'ai décidé, j'aime pas le foot. Au fond, ouais.
Peut-être. Et peut-être que dans ton enfance, t'as vu un truc à un moment et tu t'es dit, ah, putain,
le foot, c'est nul.
Lui, le mec qui faisait du foot sur le terrain, il m'a traité de mec qui faisait du théâtre.
Ouais.
T'aimais plus. Tu
dis, hop, c'est quoi, moi, je suis un mec qui fait du théâtre. Ouais, il a raison, putain. Je crois que je suis susceptible.
J'ai 3 questions que j'aime bien poser à la fin du podcast.
Super. Comme Bernard Pivot. Il avait ses petits questionnaires de fin là. Non mais c'est un compliment. Ah, merci, parce que Bernard Pivot, je me souviens quand j'étais petit, on le voyait à la télé. Il avait, je crois qu'il faisait le truc de questionnaire de. Ça existe le questionnaire de Proust peut-être. Genre si vous étiez une fleur ou enfin je sais plus. Ouais. C'est quoi. Pardon, je sais plus ce que c'est. Mmh. Mais il y avait des petites questions trop marrantes.
Okay.
Genre si vous étiez une fleur, si vous étiez un plat, c'est un nom ce truc là. Tout le monde connaît, mais moi je l'ai pas
un
en
peu.
Tête là.
Portrait chinois un peu. Ou...
Portrait chinois, ouais, certainement portrait chinois.
Alors moi,
je suis chaud.
T'es chaud?
Je suis chaud.
C'est des questions qui sont pas spécialement drôles. Je vais pas te demander quelle fleur tu es. Mais quelle fleur tu es d'ailleurs?
Hymiotis.
Hymiotis. Très bien. La première, c'est une question un petit peu philosophique, mais qui est importante aussi, je trouve, parce qu'on a parlé ensemble du sens et du sens qu'on met derrière les actions qu'on fait. Est-ce que toi, en tant que Yacine, il y a une sorte de trace que tu as envie de laisser dans ce que tu crées ?
Eh ben, je pense pas du tout.
Ok.
Ouais. Ça m'intéresse pas.
Ok, très bien. Super.
En revanche, peut-être pas de trace, mais je suis content de savoir que j'ai pu encourager des gens. Parce que je me dis, c'est positif. Il y a des comiques, des fois, qui venaient me voir en me disant, ah, moi, je te voyais quand j'étais petit, machin, et tout ça. Et donc, ça m'a chauffé un peu pour faire du stand-up. Donc, être une raison parmi tant d'autres, parmi plein d'autres artistes qu'ils ont certainement vu aussi, ça me fait plaisir. Donc ça, oui. Okay. C'est pas une trace, c'est plus... Ouais, c'est plus poussé dans le bon sens, quoi. J'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose. Moi, de moi à moi. Mais dans le stand-up, donc c'est pas dans l'humanité, je suis pas un pompier, c'est 1000 fois plus, mais dans le stand-up, donc ça me fait plaisir.
Cool. Bah déjà, merci d'être venu, hein. Je te le redis tout à l'heure.
Un plaisir.
Je suis sûr qu'il y a des gens derrière qui écoutent et que...
Eh ben, bonjour les gens qui écoutent. Exactement. J'espère que vous allez bien.
Exactement. Deuxième question, et elle va peut-être pas te plaire parce qu'on vient d'en parler juste avant un petit peu, mais est-ce qu'il y a quand même un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer et de créer ?
Ah oui, bah oui, mais ça c'est un conseil, c'est pas pareil, donc c'est pas laisser une trace. Mais en fait, les conseils, c'est des conseils applicables à soi, comme je disais, seulement si on se sent concerné par le truc, quoi. Si ça inspire. Moi, je dirais que pour créer des trucs, faut déjà avoir un petit sens, avoir un but proche. C'est cool, quelque chose d'atteignable, genre si je veux écrire un texte de blague, bah c'est déjà juste se borner au texte de blague, pas se dire je vais monter sur scène et faire un carton. C'est terrible, mais se dire bon, je vais écrire mes 5-6 blagues et je le fais pour dans 6 mois. Et puis comme ça, t'écris un peu sur ton téléphone, voilà, ou sur tes trucs. Donc se donner quelque chose que tu peux atteindre, puis dans un second temps, essayer de le partager avec les gens. Trouver des gens avec qui le partager en disant, ben voilà, je vais le faire avec un tel, ou je vais le lire à un tel, même si je veux faire quelque chose tout seul. Comme ça, c'est un truc auquel tu peux te raccrocher en disant, je dois rencontrer Bidule et lui raconter mon histoire. C'est des petits moyens d'ancrer ça dans la vie pour pouvoir créer, pour pouvoir écrire.
C'est clair.
Des petites astuces. Trouver des petites astuces kiffantes. Des petits défis, mais cool. Pas je vais monter sur l'Everest et je vais me jeter de l'eau. Tu vois, des petits défis sympas.
Parce que si tu vises l'Everest, ou si tu vises écrire ta blague pour faire un carton à l'Olympia.
Ouais. Wow. C'est la misère.
T'as
la pression.
T'as la planète qui vient sur toi.
Ah ouais. Pression horrible.
Ouais, c'est clair. Ouais. Ça peut te tétaniser, quoi.
Ouais.
Et la dernière question, qui n'est pas une question. Je fais toujours un petit cadeau à mes invités à la fin.
Ah,
et d'habitude, je demande...
On l'attendait celui-là. Non, je plaisante. Je savais pas. C'est vrai, c'est trop cool. Ouais. Je suis pas venu pour rien.
Non, mais c'est cool. Et d'habitude, je laisse le choix entre un livre et une BD. Mais là, je suis tombé cette semaine sur quelque chose. Et en préparant l'interview, je réfléchissais à ton imaginaire et ta capacité à jouer avec ça et à chercher. Et donc, je suis allé à une soirée ce lundi pour le lancement d'un magazine. Donc, je te laisse pas le choix. Ce n'est pas une question.
Je suis d'accord.
C'est un magazine, c'est un hors-série qui a été lancé par une boîte que tu connais peut-être qui s'appelle Socialterre.
Non, je connais pas, mais
voilà.
me renseignerai.
Donc, il y a pas mal de magazines. Et ils ont fait un truc qui s'appelle un hors-série sur le réveil des imaginaires. Il y a des trucs très variés dedans, des trucs peut-être trop sérieux pour toi.
Ouais.
Mais tu trouveras sûrement des choses dedans. Et donc, voilà, c'est le rédacteur en chef, c'est Alain Damasio. Je sais pas si tu connais.
Pardon, je connais pas.
C'est un des plus gros auteurs de science-fiction en France.
Waouh. Il
a des réflexions super intéressantes sur
trop bien.
La société et le sens dans lequel on va. Donc, je te laisserai piocher dedans.
C'est le numéro 1 en plus.
Ouais, bah alors c'est un hors-série, donc il n'y en aura qu'un.
Oh là là, mais je suis trop content.
Voilà,
mais
pioche dedans et peut-être que ça t'inspirera.
Ça me touche trop. Voilà. Et ben voilà, moi je connais pas beaucoup les auteurs de. On m'a dit qu'il fallait que je lise Kadik.
Ouais, Kadik, c'est bien.
Je connais pas, tu vois.
C'est très bien, je t'en conseillerais.
Oh là là, c'est super chouette. Écoute, trop bien.
Yacine, juste merci beaucoup.
Bah merci à toi.
Parce que je sais pas qui tu inspireras et je sais pas ce que ça donnera dans la vie, mais en tout cas, moi c'est un plaisir de te rencontrer.
Et ben c'était un plaisir de faire ce podcast.
Trop cool.
Merci beaucoup.
Merci. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On a beaucoup parlé avec Yacine de sujets super variés et c'est vraiment quelqu'un que j'ai pris énormément de plaisir à écouter. Si vous voulez soutenir le podcast, laissez-moi une petite note sur Apple Podcast ou un petit abonnement sur Spotify. Et surtout, parlez-en autour de vous parce que globalement, c'est vraiment ça qui m'aide à le faire connaître. Alors merci à tous ceux qui prennent le temps d'en parler autour d'eux. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. À bientôt !